Et oui, voilà, c'est la fin de la musique tibétaine sur les ondes de Radio Panique.
C'est pas exactement tibétain, tu n'es pas loin, c'est pakistanais.
C'est pakistanais.
Ou indien.
Donc voilà, donc une émission où de toute manière on va voyager puisqu'on va parler des expériences des jeunes à l'étranger dans du volontourisme, dans des chantiers humanitaires, dans tout un tas de choses comme ça où les jeunes veulent aller aider à l'étranger, et on va essayer peut-être de faire la part des choses avec des membres de l'ASBL, du Service Volontaire International, avec Pierre et Rémi qui sont là. Pierre, cofondateur du Service Volontaire International l'année dernière, il me semble, avec une expérience au départ au Vietnam. On va rentrer dans tout ça petit à petit. Nous aurons Sarah Fautre qui va nous parler de l'anniversaire de Tchernobyl, puisque ça se fête apparemment.
Non, d'abord ça se fête pas, et puis mon nom c'est Sarah Fautré.
Excusez-moi.
Mais tu peux m'appeler Sarah, hein, en toute simplicité.
En toute simplicité.
Mais sinon, effectivement, je parlerai du 24e anniversaire, triste anniversaire de l'accident de Tchernobyl.
Mon Dieu, on tremble déjà, et on espère que ça nous arrivera aussi cette année, peut-être en Belgique. On est tous dans l'attente.
On ne souhaite pas, non.
D'un accident nucléaire, on espère en tout cas, à Radio Panique, c'est ce qu'on attend. Et Catherine Plainevaux qui est avec nous en studio pour nous guider dans la ville et dans les conférences et autres.
Voilà, donc cette fois-ci, un agenda essentiellement tourné vers les conférences gratuites de cette semaine et de la semaine prochaine.
Tout ce qui est payant, non, quoi.
Non, là on évite quand même, conférence.
Voilà.
Faut pas exagérer.
Donc on va peut-être rentrer tout de suite dans cette histoire de tourisme, de volontourisme. Peut-être pour que ce soit plus clair pour les auditeurs, est-ce que Pierre, vous auriez pu vous présenter un peu votre parcours et la création de cette ASBL, Service Volontaire International?
Oui, donc moi je suis un ancien coopérant belge pour les Nations Unies. Au Vietnam, je suis parti au Vietnam il y a de ça maintenant 3 ans, un peu par hasard. Et une partie de ma mission sur place a été de créer la toute première organisation de jeunesse internationale et totalement indépendante du Parti communiste. Et voilà, donc 5 ans après, je suis toujours avec ça. On a plus de 4000 membres locaux là-bas et on reçoit 500 volontaires internationaux chaque année au Vietnam. Et on a décidé depuis l'année passée de venir ici en Europe présenter ce qu'on fait là-bas et ce que font nos partenaires. Donc on est un peu spécial, on est une organisation du Sud qui va vers le Nord faire montrer ce que c'est faire des associations de jeunesse asiatiques.
Et donc maintenant vous envoyez aussi... des jeunes un peu partout dans le monde et pas uniquement au Vietnam.
Non, donc on a à peu près 70 pays où on a des partenaires, donc d'autres associations de jeunesse ou des petites ONG. Et pour cet été, on a à peu près 2000 projets qui sont disponibles, qui durent entre 2 semaines et plusieurs mois, voire une année.
Donc vous êtes basé à Watermael-Boitsfort, j'ai l'impression, dans votre propre maison.
Pour l'instant, c'est effectivement, on mélange un peu les deux, c'est un peu exigu. Mais on a aussi des bureaux qui se trouvent dans pas très loin d'ici, au 123 rue Royale. Donc on squatte un peu le squat de temps en temps pour faire nos réunions. Et on va organiser entre autres une pièce de théâtre le 9 mai, gratuite.
Donc c'est dans 15 jours, juste avant la table d'hôte ou juste après?
Juste après.
Et ça parle, il me semble, de la question des frontières, sorte de dénonciation des politiques actuelles. Et moi, ce que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est votre expérience, la rencontre d'autres organisations, parce que historiquement, les départs vers l'étranger, les départs humanitaires, bon, il y a tout le colonialisme qui l'a fait, les sociétés coloniales, etc., les sociétés de géographie, et puis ensuite... beaucoup de choses confessionnelles l'ont fait aussi, puis les mouvements de scouts, etc. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des sociétés commerciales qui le font, et qui le font d'une manière assez étrange. Et vous avez été confronté, en fait, à l'arrivée de sociétés à but lucratif sur ce créneau, en fait, des jeunes qui veulent aller à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ?
Oui, donc ça, c'est un phénomène assez inquiétant qui nous est apparu il y a à peu près 2 ans. C'est un phénomène qui vient essentiellement des pays anglo-saxons. Donc ce sont essentiellement des agences de voyage qui, historiquement, étaient plutôt orientées stages linguistiques, séjours culturels ou secondes rétons, ce genre de trucs qui ont senti que les jeunes étaient intéressés par ce qu'ils appellent l'humanitaire. Bon, d'abord, une petite parenthèse, l'humanitaire, c'est l'aide d'urgence. Un tremblement de terre, on envoie des médecins, des pompiers. Donc déjà, le terme n'est pas tout à fait correct. Donc ces sociétés surfent sur la mode. On partir en Afrique, sauver les petits Africains. On a 18 ans et on va aider les Africains. Alors, ces jeunes qui partent dans ces trucs-là sont pas spécialement méchants ou racistes ou quoi que ce soit. Au contraire, ce sont des jeunes qui sont pleins de bonne volonté. Mais ces sociétés, au lieu de remettre les idées en place, au contraire, amplifient toute une série de clichés pour vendre ce qu'ils appellent du tourisme humanitaire. Alors, nous, au Vietnam, on a commencé à voir le phénomène il y a donc de ça 2 ans. Donc, un de leurs grossistes est venu nous voir en disant, voilà, on va vous aider à trouver des volontaires en Europe. Pour nous, c'était fantastique, dans le sens où une grande partie de notre budget vient des frais de participation que nous donnent les volontaires qui viennent nous donner un coup de main. Donc c'était merveilleux. Le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que les jeunes qu'on recevait, c'était pas vraiment des volontaires venant d'associations comme on s'y attendait, mais c'était des clients qui avaient payé parfois jusqu'à 2000 euros pour 2 semaines de volontariat et qui, évidemment, s'attendaient à tout à fait autre chose. Donc quand on a payé 2000 euros, on s'attend évidemment à un confort autre que style camp scout, ce qui est normal. Pour donner une petite idée, avec 2000 euros à Hanoï, on peut faire 1 mois ou 2 au Sheraton. Des jeunes aussi à qui on avait vendu un peu n'importe quoi. Tu parles le français, eh bien, va enseigner le français aux petits Vietnamiens, ça leur fera pas de tort. Mais être prof de français, c'est un vrai métier, quoi. Il suffit pas de parler le français. Alors évidemment, quand ils arrivent sur place, bah, oui, ça se passe pas aussi bien qu'ils l'avaient imaginé. Donc nous, à un moment donné, bon, on a stoppé ce type de collaboration parce qu'on avait le sentiment de participer à une arnaque, et je crois que c'était le cas. Bon, il y a eu une période de transition où ces agences de voyage continuent à nous envoyer des volontaires en dessous de la table, donc on soudoyait certains de nos staffs pour fourguer des touristes parmi nos volontaires, ce qui a failli presque faire imploser l'association. C'est clair que quand on demande 2000 euros et que, en fait, nous en demandons 150 à 200, c'est clair que là, avec les 1800 euros de marge bénéficiaire, on peut en donner 4 ou 5 à un staff. Donc c'est assez facile de soudoyer les gens avec autant d'argent.
Donc là, en fait, ils payaient des gens qui de votre ONG au Vietnam sur le côté pour faire rentrer des touristes dans,
tout à fait, oui,
dans le pseudo-séjour, quoi.
Oui, donc bon, ça, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir sur une association quand ce genre de trafic apparaît. Bon, quand on a nettoyé la situation, on s'est rendu compte qu'ils avaient trouvé mieux, c'était développer leur propre projet. Alors c'est par exemple, on va dans une école, dans un petit village au milieu de nulle part, on fait une donation entre guillemets au directeur de l'école, et puis on a des jeunes qui viennent enseigner le français ou l'anglais aux enfants de l'école primaire. Alors c'est présenté comme une introduction interculturelle, une façon pour ouvrir l'esprit à ces jeunes, leur faire découvrir d'autres cultures. Pourquoi pas? Le problème, c'est que les vrais profs, pendant ce temps-là, ne travaillent pas parce que l'école a été livrée au tourisme. Et puis, surtout, 2 semaines après, on a un nouveau quart de touristes qui revient faire « Hello, what's your name ?». Donc, l'objectif, c'est absolument pas de qu'ils apprennent quoi que ce soit au niveau linguistique. C'est simplement transformer les pays en voie de développement en une attraction touristique et qui ne coûte pas très cher. Ça peut être, donner un autre exemple, c'est ils avaient été voir des moines bouddhistes en leur disant, voilà, il y a des jeunes qui sont intéressés par le bouddhisme, êtes-vous prêts à les accueillir? Évidemment, ils étaient prêts à les accueillir, ce sont des religieux. Le problème, c'est qu'ici, en Europe, c'était pas vendu comme un séjour religieux, mais c'était vendu comme une initiation au yoga. Donc, il y avait des jeunes qui payaient une fortune pour aller dans des monastères, et alors que c'était les moines qui payaient le logement et la nourriture de ces jeunes, quoi. Donc les frais étaient de zéro, tout était payé par le tiers monde, quoi. Fantastique. Donc si vous voulez faire de l'argent, c'est le bon filon. Un truc qui marche très très bien en Thaïlande, par exemple, pour l'instant, c'est les orphelins ayant le sida. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées pour récolter les enfants et orphelins ayant le sida, et puis on fait une petite attraction touristique pour les touristes. Ça fait bien, ça fait des jolies photos. Une fois que les enfants sont plus à la mode, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais on peut s'attendre que, il y a quelques années, c'était l'éco-volontariat qui était à la mode. Maintenant, c'est un peu ce genre de truc, ce qu'on appelle le volontourisme ou le tourisme humanitaire qui est à la mode. Mais dans 3-4 ans, ce sera peut-être les boîtes de petits pois ou je ne sais pas quoi.
Autre élément assez inquiétant dans ce qui est proposé par ces sociétés en France, en Belgique ou en Angleterre, ça va être de faire du tourisme médical, en fait.
Oui, donc ça, c'est, on a découvert ça en France. Donc ça, c'est, je pense, c'est le top du top, quoi. Donc c'est une société en France qui donne la possibilité de tester sa motivation professionnelle, quoi. À la fois pour des lycéens, mais aussi des étudiants en médecine. Et donc, on peut aller au Cambodge, jouer au médecin. Donc, officiellement, c'est un stage ou un truc comme ça. Mais quelle image on donne à ces jeunes des pays en voie de développement? Un médecin cambodgien, c'est pas un sorcier qui danse autour de son malade. C'est un vrai scientifique qui a fait des vraies études et qui connaît son métier. C'est pas un gamin de 18 ans qui va venir lui expliquer comment faire. Alors, c'est ok, c'est très romantique, ça a l'air intéressant, mais ces jeunes vont pas simplement suivre un médecin pendant un mois ou deux comme un petit chien. Ils vont mettre la main à la pâte. Et d'ailleurs, sur le site, on voit une jeune fille en train de triturier l'œil d'un malade, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, mais faire ça, c'est être infirmier, c'est également un vrai métier. C'est risquer de blesser la personne à qui on fait par exemple un mauvais pansement, mais c'est aussi risquer de se faire contaminer soi-même parce qu'on ne sait pas très bien les risques qu'on prend. Donc ça me paraît assez dangereux comme dérive. Et d'ailleurs, ça m'étonne que l'ordre des médecins ne réagit absolument pas, qu'il y ait maintenant des agences de voyage qui organisent des séjours médicaux. Ici, on n'accepterait pas de voir un groupe de touristes japonais dans un hôpital en train de vous photographier. Donc, par exemple, dans cette agence de voyage, il y a un endroit, ils vous disent, voilà, vous allez pouvoir assister à des opérations médicales, blablabla, et peut-être même, avec un peu de chance, à une césarienne. Mais c'est une agence de voyage. Donc, si je paye une agence de voyage et que j'ai pas ma césarienne, est-ce que je peux avoir une réduction? Est-ce que je peux avoir est-ce qu'ils vont m'en organiser une? Qu'est-ce qui se passe? Si je suis client, s'il est marqué dans le programme césarienne, je veux une césarienne.
Mais alors comment faire pour reconnaître voilà le bon séjour à l'étranger du mauvais? Est-ce qu'il existe un bon séjour? Je sais pas, mais pour avoir été visité du coup la façade officielle de ces agences de tourisme sur le net, pour moi ça paraissait évident que c'était vraiment ridicule leur proposition, mais apparemment beaucoup de gens qui ont peut-être aucun parcours associatif ou sont voilà dans une recherche assez basique sur internet, c'est la première chose sur laquelle ils tombent, et voilà, ils vont faire ce choix. Apparemment, peut-être qu'il y a même des familles que ça rassure de payer 2000 euros parce que on a une impression, voilà, qu'il y a une vraie organisation derrière, une vraie sécurité, un vrai suivi, alors qu'apparemment parfois on file ça aux bouddhistes qui, au niveau de la sécurité, sont peut-être assez efficaces, hein, ça je... Mais est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui recherche ce type d'expérience? Est-ce que vous lui dire, est-ce qu'il faut dire tout simplement on n'a pas à vivre ces expériences là déjà tout simplement? On n'a pas à aller dans un autre pays tester son parcours professionnel, voir si on veut vraiment devenir infirmier ou jouer à sauver la planète. Ou est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des possibilités de s'engager dans des projets qui, eux, sont intéressants?
Bon, d'abord, pour localiser ces agences, c'est pas si évident que ça, dans le sens où elles ont la possibilité d'avoir des vraies campagnes de marketing, d'avoir des spécialistes en communication qui vont travailler leur présentation pour attirer justement des jeunes. Le public qui vit, ce sont des jeunes adultes qui ont 18, 20 ans et qui n'ont pas l'expérience, qui ne connaissent pas les associations par réputation. Donc pour eux, tout est vierge et c'est assez facile de les manipuler. Alors le prix, c'est clair, je pense que c'est quelque chose qui rassure les parents, puisque c'est bien souvent les parents qui payent. Ils ont généralement des très beaux bureaux qui rassurent également. Mais je pense que pour faire la distinction, je pense qu'une première chose, c'est la solidarité n'est pas une marchandise, quoi. C'est pas une nouvelle attraction, un nouveau produit qu'on va vendre. D'autant plus que c'est pas juste un client et un vendeur, c'est une personne qui va servir d'objet d'attraction touristique. On va aller s'occuper des enfants on va leur apprendre l'anglais alors qu'ils n'ont rien demandé, quoi. Bon. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, je pense qu'il faut aussi peut-être revenir sur Terre, quoi. Donc, les pays en voie de développement, ce ne sont pas des sous-développés. Ils ont des universitaires, ils ont des ingénieurs, ils ont des médecins, mais ils n'ont pas nécessairement de l'argent, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui n'a aucune expérience pour venir les sauver, quoi. Donc, toutes ces agences qui proposent de faire de la médecine ou des choses comme ça, ou jouer au prof, c'est un peu n'importe quoi. Être prof, être médecin ou agronome, c'est un vrai métier et c'est pas quelque chose qu'on peut improviser, même dans les pays en voie de développement. Que vous dire de plus?
Eh ben, rien de plus. Je pense que c'est...
Oui, on peut peut-être faire une petite pause musicale.
Une petite pause musicale.
Avec la musique d'Océanie.
Avec de la musique d'Océanie pour nous introduire à la question nucléaire, non?
Ou bien on peut mettre directement de la musique nucléaire, si vous préférez, si le sujet est clos.
C'est un choix. Océanie ou nucléaire? Oui. Pour l'Océanie, appuie sur la touche 2.
C'était un extrait d'une compilation faite par l'Institut de musicologie de Bâle sur les Yatmoul de Papouasie. Ce n'est pas de la musique pour touristes en principe.
Musique qui ne ravit pas la soif d'exotisme et de clichés de l'occidental. Donc on retourne sur cette question de l'apparition de sociétés commerciales dans le tourisme solidaire, qui devient plus très solidaire du coup. Et on est avec Pierre et Rémi du Service Volontaire International, donc une ASBL créée l'année dernière sur Bruxelles et qui fait le pont avec une ONG qui se trouve au Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les projets qui sont menés au Vietnam ?
Oui, c'est un peu plus qu'un pompe dans le sens où bon, on a un nom différent, mais les personnes qui gèrent l'association au Vietnam, bon, des Vietnamiens, sont aussi membres de notre conseil d'administration. Donc, quelque part, les personnes sont un peu les mêmes, même si statutairement, nous sommes deux organisations séparées. Alors, bon, pour présenter un peu ce qu'on fait au Vietnam, je dirais le tout premier projet qu'on a mis en place, c'est un projet de maison de jeunes. Une maison de jeunes un peu spéciale. Donc, on s'occupe beaucoup d'enfants des rues. Donc, ce sont des paysans qui quittent la campagne pour faire des petits boulots en ville, comme récolter le plastique, le verre, décharger les camions, par exemple. Ça leur donne un revenu qui est supérieur à ce qu'ils avaient en campagne, mais insuffisant pour eux louer un appartement, par exemple. Donc, ils se construisent des radeaux qu'ils vont mettre sur le fleuve Rouge. Alors, c'est absolument pas romantique. C'est pas des bateaux, c'est des bouts de bois qui tiennent plus ou moins ensemble. C'est dangereux. Chaque année, il y a des enfants qui se noient parce qu'ils savent pas bien nager. C'est tout à fait interdit d'habiter là aussi, et c'est totalement insalubre. Donc il y a ces personnes habitent là, viennent s'agglomérer à eux des populations à risque, comme par exemple des toxicomanes, des prostituées, et donc ça fait un mélange un peu explosif pour la police, d'autant plus qu'au Vietnam, si on veut déménager, il faut avoir une sorte de visa interne, sinon on est illégal dans son propre pays. Donc dans le passé, régulièrement la police venait, mettait le feu au bateau, renvoyait les gens dans leur village, en oubliant parfois quelques enfants en passage. Et évidemment, ils revenaient parce que leur gagne-pain est là. Alors, quand on a créé l'association, on avait déjà des volontaires vietnamiens qui essayaient de faire quelque chose avec ce groupe de personnes, mais de manière informelle et non structurée. Donc, une fois qu'on a mis en place l'association, on s'est demandé un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces personnes. Donc, ces personnes, c'est 40-60 familles. C'est pas très grand non plus. Alors on s'est dit que travailler avec les adultes, c'était trop complexe, donc ça demande des compétences techniques bien particulières, assistants sociaux, psychiatres par exemple, que nous n'avons pas. Et c'est pas parce qu'on fait du volontariat que ce qu'on fait est forcément bien. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire n'importe quoi et de rendre la situation encore pire qu'elle l'était au départ. Donc nous, on s'est dit, en tant qu'association de jeunesse, travailler avec les enfants, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on a créé cette maison de jeunes, et l'objectif de cette maison de jeunes, c'est, comme les maisons de jeunes ici, c'est de créer des activités pour les enfants et les adolescents, mais aussi les remettre dans l'école publique. Donc la plupart de ces enfants sont en somme très, très heureux, ils travaillent une heure ou deux avec leurs parents, et puis ils font ce qu'ils veulent durant la journée. Ils vont pas à l'école parce qu'ils sont censés habiter dans un autre village, et donc aller dans l'école de ce village. Bien parfois, certains d'entre eux sont nés là, ils n'ont aucun papier, donc ils n'ont aucun droit. Alors, pour faire une petite parenthèse, ces enfants, une fois qu'ils deviennent adolescents, c'est souvent à ce moment-là qu'apparaissent les problèmes. Donc, par exemple, c'est la prostitution, c'est la toxicomanie, avec souvent une connaissance très très limitée des risques qui sont liés à ces pratiques. Donc l'idée, c'est de ramener les enfants dans le parcours scolaire. Et alors pour ça, on a mélangé du volontariat local et international, ce qui est peut-être un peu spécial. Donc par exemple, le matin, on a des volontaires internationaux qui organisent toute une série d'activités socio-éducatives. Donc par exemple, ça peut être pour des volontaires japonais faire un atelier origami, pour des Belges faire des jeux style camp scout. Donc on mélange, donc c'est là où prend tout son intérêt d'avoir des volontaires étrangers, c'est qu'ils vont venir avec leur culture, avec des idées que n'auraient peut-être pas eu nos volontaires locaux. À midi, ils ont un repas, et l'après-midi, là, ce sont surtout des volontaires locaux et quelques volontaires long terme qui leur donnent des cours quasiment particuliers. Et dès qu'ils ont réatteint le niveau adapté à leur âge, on leur paie la scolarité dans une école publique. Donc l'objectif, c'est absolument pas de les garder captifs de notre projet, mais au contraire, s'en décharger le plus rapidement possible pour qu'ils aient le diplôme qu'ils méritent et qu'ils puissent avoir la vie qu'ils ont envie d'avoir. Et là, par exemple, rien que dans cette façon de faire, c'est totalement en opposition avec les intérêts par exemple d'une société commerciale qui ne pourrait pas se dire voilà, on fait un projet, mais l'objectif du projet, c'est de le couler le plus rapidement possible. Si on faisait ça dans un cadre commercial, on ferait tout pour que les enfants restent le plus longtemps possible dans notre structure, puisque c'est eux qui font fonctionner le projet.
C'est eux l'attraction.
Voilà. Bon, voilà.
Lorsque nous sommes rencontrés, vous m'avez parlé aussi d'un aspect un peu statistique sur la participation des jeunes aux organisations de jeunesse. Mm-hmm. Et donc, semble-t-il, il y a une dégringolade de la participation des jeunes dans les associations qui leur permettent de partir à l'étranger en communauté française.
Oui, en tout cas pour les associations que je connais, certaines d'entre elles, en 10 ans, ont perdu près de 50% de leurs volontaires. Alors, bon, on peut discuter. Bon, leur théorie, c'est que les jeunes sont devenus égoïstes, ils ne s'intéressent plus à la solidarité, sont devenus des sales consommateurs. Pour moi, c'est pas une explication satisfaisante, parce que pourquoi les jeunes alors se dirigent-ils vers le secteur commercial? Est-ce que c'est pour le plaisir de dépenser de l'argent? Je pense pas. Et quand on regarde d'autres secteurs, d'autres associations de jeunesse, on ne voit pas ce type de problème. Le mouvement scout, les maisons de jeunes ne voient pas leur public disparaître. Donc, moi, ma théorie, c'est que pas mal d'associations de volontariat ont une vie assez confortable. Une grande partie de leur budget vient de la communauté française. Alors on fait 10, 20 ou 100 volontaires, ça change pas grand-chose au niveau du budget. Et bon, il suffit de dire, voilà, on a perdu 50% de nos volontaires, mais on a doublé la qualité, et puis basta, c'est fait, quoi. Bon, nous, on essaye d'avoir une autre approche, c'est d'aller vers le jeune là où ils sont, quoi. On va dans des salons étudiants, on va sur des campus, on vient ici, on essaye d'avoir un site web qui ressemble à quelque chose, donc vraiment d'aller vers le jeune, quoi, plutôt que l'inverse, dire voilà, on est la meilleure organisation du monde, c'est aux jeunes à venir vers nous.
Et donc c'est là qu'apparaît Rémi, parce que vous êtes entouré aujourd'hui de jeunes et brillants communicateurs apparemment qui sont là pour
futurs communicateurs
qui donc viennent faire leurs armes au service volontaire international et vont nous délivrer un message crucial aujourd'hui. Ce message, c'est la présentation, je dirais, d'une pièce de théâtre. Et c'est là que Rémi, devant vos oreilles ouvertes, grandes ouvertes, va faire sa première tentative aujourd'hui de présentation. Allez Rémi, c'est à toi.
Très bien, donc on vous invite en fait le 9 mai en soirée au 123 Logement, qui est une ASBL qui donc se trouve au 123 à la rue Royale à Bruxelles, tout près du Botanique. On vous propose une pièce de théâtre par une troupe qui s'appelle le Théâtre du Copion et qui vous fera la représentation de Sans Sac, une pièce de théâtre qui parle des sans-emploi, des sans-papiers, des sans-abri, donc quelque part en se révoltant. Donc on vous invite à venir, non pas vous révolter, mais peut-être à venir prendre des informations éventuellement pour un chantier international. Nous serons là pour vous renseigner. La soirée donc commencera à 19h avec une bouffe populaire à prix libre, suivie de la pièce de théâtre. Voilà.
Et voilà, donc une manière aussi d'aller vers les gens en ouvrant des permanences au 123 rue Royale.
Et aussi donner le volontariat, rendre le volontariat aussi accessible à un autre public, quoi. Beaucoup d'associations se sont focalisées essentiellement sur des jeunes, études supérieures, études universitaires. On essaye aussi d'aller vers un autre public qui aurait peut-être pas pensé faire du volontariat international.
Voilà. Avant que vous ne partiez, jeune, c'est jusqu'à quel âge association?
Donc notre public cible, c'est essentiellement les 18-30 ans, mais on accueille par exemple...
Ça me vient que je ne faisais pas partie des jeunes.
Justement, si.
Lorsque vous êtes rayonnante comme Fautré, et ben vous pouvez partir tout de même.
En fait, on reçoit de plus en plus des familles qui souhaitent faire du volontariat. Et il y a de plus en plus de demandes venant de retraités qui souhaitent s'investir dans du volontariat. Simplement, nous, on reste une association de jeunesse, donc si une personne de 60 ans souhaite faire un chantier international avec nous au Vietnam, on l'accueille vraiment avec plaisir, mais c'est à elle à s'adapter aux jeunes. Et pour nous, c'est
vraiment... Très nombreux.
Non, mais c'est quelque chose de vraiment très
envahissant.
Très intéressant, parce que donc au Vietnam, les relations sociales sont fort déterminées par l'âge. Donc on s'appelle petit frère, grand frère, et là, quelque part, on inverse un peu la situation. Ce sont des jeunes qui dirigent, entre guillemets, des personnes plus âgées. Donc on fait de l'interculturel, mais là, avec des personnes plus âgées, on peut faire aussi de l'intergénérationnel. Et c'est aussi très intéressant à faire.
Eh ben, merci beaucoup. On va malheureusement Hein, ou très heureusement.
Juste mentionner notre site web.
Ah non, non.
Pour
non,
ceux
non,
que ça intéresse. www.servicevolontaire.org et toutes les infos y sont.
Et tout y est, tout y est. Voilà. Et voilà, maintenant on va passer à la bombe atomique, bien entendu.
On va passer un petit extrait avant de rentrer.
Un petit extrait, bah oui, bien sûr. Un extrait nucléaire, s'il vous plaît.